Les grands titres de ce jeudi 5 janvier. L'Indonésie suspend sa coopération militaire avec l'Australie. Un soldat franco-israélien reconnu coupable d'homicide par une cour militaire. Et l'année 2016 est l'une des plus chaudes jamais enregistrées en Australie. La ministre de la Défense, Maryse Payne, se dit optimiste que les relations militaires entre l'Australie et l'Indonésie reviendront à la normale. L'Indonésie a suspendu sa coopération militaire avec l'Australie après un incident où un enseignant des forces armées indonésiennes aurait trouvé du matériel insultant son pays dans un centre d'entraînement de Perth en novembre. La sénatrice Payne a dit qu'une enquête était en cours et que les relations militaires entre les deux pays étaient suspendues jusqu'à ce que la situation soit résolue.
I found out about the concerns being raised in November. The investigation requires an examination of materials, requires interviews with the Australians involved, and also an opportunity for the Indonesian officer to comment. These things need to be done appropriately. So the inquiry is not quite finalised. That is a matter which is coming close to fruition, and once that is confirmed, then the next actions will be taken.
La ministre de la Défense, Maryse Payne. La police de Manicaland s'est défendue d'avoir battu deux demandeurs d'asile la veille du Nouvel An. Les deux hommes d'origine iranienne doivent passer en cour aujourd'hui accusés d'inconduite en état d'ébriété et d'avoir résisté à leur arrestation. Le commandant de la police de Manus, David Yapou, a défendu ses officiers sur les ondes d'ABC.
The two known refugees from Iran nationality were drunk and walking along the main road, causing public nuisance to the public and the passing motorists. They were so violent at the time that the police had to use reasonable force to get them onto the police vehicle and bring them to the police station.
Le commandant de la police de Manus, David Yapou. Le bureau de météorologie nous apprend que 2016 est la quatrième année la plus chaude jamais enregistrée en Australie. L'une des raisons pour ces chaudes températures, c'est la force d'El Niño qui a réchauffé la mer dans l'océan Pacifique et rendu le climat plus humide. On se rappellera que la vague de chaleur en février et mars avait causé de graves feux de brousse dans le Victoria, la Tasmanie et l'Australie occidentale. Le docteur Carl Braganza du bureau de météorologie a aussi dit à ABC qu'on avait eu moins de pluie au pays l'an passé.
Across Australia, we've had rain at the start of the year, then it went dry, and then during the middle of the year especially, we had an influence from record sea surface temperatures around Australia, and they were dragging moisture over the continent and producing quite a lot of rainfall.
Carl Braganza du Bureau de météorologie. Passons maintenant à l'international. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu veut qu'un soldat qui a tué un assaillant palestinien blessé soit pardonné. Le sergent franco-israélien Elor Azaria a tiré sur Abdul Fattah al-Sharif alors qu'il était immobile, allongé dans la rue. L'incident s'est passé à Hébron, en Cisjordanie, en mars dernier, après qu'un autre soldat a été poignardé. Le sergent Azaria a dit qu'il croyait qu'Abdul Fattah al-Sharif avait une veste d'explosif. Après 7 mois de procès et 1 mois de délibéré, une cour militaire israélienne l'a déclaré coupable d'homicide. Marine Vlahovic est allée recueillir des réactions au verdict à Ramallah, dans les territoires palestiniens.
Assis, un livre à la main, dans les vapeurs d'essence des rues embouteillées de Ramallah, Ralil a appris la condamnation du soldat Azaria il y a quelques heures. Et malgré le caractère exceptionnel de ce jugement, c'est une évidence pour le sexagénaire.
Peu importe qu'il soit condamné maintenant par les Israéliens, il était coupable dès le début et il a déjà été condamné par le monde entier. Il a tout de même tiré sur un jeune Palestinien qui gisait à terre avec l'intention de le tuer.
À quelques centaines de mètres, devant son taxi jaune flambant neuf, Mohamed estime que justice a été rendue.
Oui, c'est une décision importante. Ce jeune aurait pu être mon fils, un ami ou mon frère.
Comme bon nombre de ses compatriotes, Fadi a suivi de près cette affaire symbolique. Mais le jeune homme qui travaille dans l'humanitaire reste sceptique.
C'est peut-être quelque chose de bien, oui, mais ce n'est pas le mieux que l'on puisse attendre. Je ne veux pas attendre d'être abattu avant qu'un soldat soit condamné et soit mis en prison pour quelques semaines, quelques mois ou 2 ans maximum.
Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinien, a quant à lui dénoncé un procès-spectacle qui n'a pas mis en lumière la culture de l'impunité dans l'armée israélienne.
Marine Vlahovic pour RFI. Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, insiste que la Russie n'est pas la source des emails du Parti démocrate qui ont été rendus publics avant l'élection présidentielle. L'administration de Barack Obama accuse la Russie d'avoir orchestré le piratage des emails pour influencer les résultats d'élections présidentielles américaines. Julian Assange a plutôt dit à Fox News que c'est la faute de l'équipe d'Hillary Clinton, ciblant particulièrement John Podesta, s'ils se sont fait pirater.
Podesta gave out that his password was the word password. His own staff said, this email that you've received, this is totally legitimate. So this is something a 14-year-old kid, could have hacked Podesta that way. She made almost no attempt to keep them secure from states.
Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Le président élu américain Donald Trump a dit que sa priorité dès qu'il entrera en poste sera de révoquer la réforme des soins de santé de Barack Obama. La loi surnommée Obamacare a permis à 20 millions d'Américains qui n'avaient pas d'assurance médicale d'être couverts. Les républicains sont toutefois contre cette loi, la qualifiant d'ingérence du gouvernement. Le sénateur démocrate Charles Schumer accuse les républicains de vouloir se débarrasser d'Obamacare sans avoir de plan pour le remplacer.
Republicans are plotting and soon will be executing a full-scale assault on the three pillars that support the American healthcare system: the Affordable Care Act, Medicare and Medicaid. The Republican plan to cut healthcare wouldn't make America great again, it would make America sick again. And lead to chaos instead of affordable care.
Le sénateur démocrate Charles Schumer. Toujours aux États-Unis, Barack Obama a tenu sa dernière rencontre en tant que président avec ses conseillers militaires. Il a encouragé une transition harmonieuse avec son successeur Donald Trump le 20 janvier.
We've got to make sure that during this transition period, that there is a seamless passing of the baton, that there's continuity. And that any issues that still remain, and obviously, you know, we still have major fights against ISIS in Mosul and in Syria. Afghanistan is still active.
Le président américain Barack Obama. En Allemagne, les autorités ont placé en garde à vue un Tunisien de 26 ans qui pourrait être lié à l'attaque au camion qui a fait 12 morts à Berlin en décembre. La police dit avoir aussi cherché la chambre d'un homme qui a dîné avec le suspect principal une journée avant l'attentat. Après plus d'un an et demi de crise électorale, Haïti a finalement un nouveau président. Il s'agit de Jovenel Moïse, 48 ans, un homme d'affaires qui n'a exercé jusqu'à présent aucun mandat politique et qui est le protégé du président sortant, Michel Martelly. Il hérite d'un pays miné par l'instabilité politique et de multiples problèmes. Marcel Dorény, chercheur en histoire, nous en dit plus sur ce nouveau président.
C'est bien difficile dans la mesure où il n'a jamais exercé de mandat. C'est toujours d'ailleurs un homme d'affaires, impliqué dans l'agriculture, dans l'agriculture biologique, dans l'exportation. Il n'a pas exercé de mandat, donc il faut se fier à ses paroles. Il est très ferme sur le programme de rétablissement de l'ordre, de la lutte contre la corruption. Il est vrai que Haïti sort d'une période très compliquée depuis plus d'un an maintenant, depuis octobre 2015. C'est une période électorale très troublée, avec des annulations, des reports, etc. Un président intérimaire. Que va faire le président? Attendons. N'oublions pas qu'il est issu du parti du président Martelly, qui a été très silencieux, qui n'est pas intervenu dans le débat. Voyons, je suis très perplexe sur l'avenir de la politique qui va être menée. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour l'instant, la communauté internationale reconnaît l'élection. Va-t-elle pour autant aider, collaborer à la relance de l'économie qui est bien malade? Nous verrons.
Marcel Dorény, chercheur en histoire au micro de RFI. Le chef d'orchestre préféré de Maria Callas, le français Georges Prêtre, est décédé mercredi à 92 ans. Retour sur sa longue carrière avec Isabelle Chenu.
Il y a un an, à 91 ans, il dirigeait encore le prestigieux concert du Nouvel An à Vienne. Georges Prêtre, chef d'orchestre préféré de la Callas, aura eu une carrière au sommet de plus de 70 ans. Originaire du nord de la France, il racontera souvent avoir eu un choc à l'âge de 7 ans en entendant une ouverture symphonique. Il apprend le piano et la trompette à Douai, entre à 15 ans au Conservatoire de Paris et se frotte après-guerre au jazz joué dans la capitale par les Américains. Il découvre aussi l'opéra et choisit un métier qui ne s'apprend pas, chef d'orchestre. Georges Prêtre se fait embaucher à Marseille. Il dirige à Lille, Toulouse, Paris, mais son caractère entier lui vaut des querelles. C'est à l'étranger qu'il mène l'essentiel de sa carrière, à la Scala de Milan et pendant 50 ans à la tête de l'Orchestre symphonique de Vienne. Georges Prêtre était un trésor national, il a dirigé des dizaines d'orchestres comme invité et défendait une haute idée de la musique, proche de la poésie. « Vous devez servir l'œuvre », répétait-il aux musiciens, « pas vous servir ».
Isabelle Chenu pour RFI. Jetons maintenant un coup d'œil à la météo avant de passer au sport avec Jean-Noël. À Perth aujourd'hui, c'est 27 degrés. Adélaïde, 36 degrés, ça risque de se réchauffer au cours des prochains jours. On annonce une vague de chaleur d'une semaine en Australie du Sud. À Melbourne, c'est 31. Hobart, 21. Canberra, 30. Wollongong, 25 degrés. Sydney, 26. Newcastle, 24. Brisbane, 28. Cairns, 32 degrés. Et à Darwin, 31. Un rappel des grands titres de ce jeudi 5 janvier. L'Indonésie suspend sa coopération militaire avec l'Australie. Un soldat franco-israélien reconnu coupable d'homicide par une cour militaire. Et l'année 2016 est l'une des plus chaudes jamais enregistrées en Australie.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench